OK, on en est à notre 12e leçon, notre série sur la théologie systématique. Aujourd'hui, on va voir l'attribut de Dieu, la grâce de Dieu. L'Éternel est grâce de par sa nature même et dans ses actes envers ses créatures. Nous devons constamment nous rappeler ce glorieux attribut de notre Dieu pour faire face à toutes nos difficultés et pour combler tous nos besoins sans exception. Partageons ce trésor de la grâce de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans le verset est clair, vu quand on est des enfants de Dieu, on se doit de s'approcher de lui avec assurance et le but de s'assurer, c'est de demander au Seigneur de nous donner nos besoins, de nous accorder nos besoins. Et on sait qu'on est plein de besoins. Nos besoins peuvent être physiques, nos besoins peuvent être moraux, nos besoins peuvent être spirituels. Et vu qu'il est la source de toute grâce, le Seigneur nous dit de s'approcher du trône de la grâce, là c'est l'endroit où il accorde ses grâces, de le faire avec assurance puisque nous sommes ses enfants. Acte 20, verset 24, Paul dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alors, c'est sûr que quand on a reçu la grâce de Dieu, le verset nous rappelle qu'on a le devoir de l'annoncer, donc de la partager autour de nous autant qu'on le peut. Et si on manque de zèle dans cette chose-là, on peut la demander au Seigneur de nous enlever ou de nous enlever les peurs, de nous enlever la paresse et de nous donner l'assurance et ce qu'il faut pour le faire selon sa volonté. Le premier point qu'on va regarder, c'est les différentes caractéristiques de la grâce de Dieu. La première chose qu'il faut considérer quand on examine la doctrine de la grâce de Dieu, c'est le fait qu'elle est accordée toujours selon sa bonne volonté. On lit dans Éphésiens 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a manifesté en son bien-aimé. Alors, la grâce, c'est en son bien-aimé. Et le fait que c'est Dieu qui l'accorde selon sa bonne volonté. Deuxième caractéristique de la grâce de Dieu, c'est le fait qu'elle est absolument libre. Dieu n'était pas obligé d'aucune façon d'accorder la grâce aux hommes qui avaient chuté. Et Dieu n'était pas obligé d'aucune façon non plus de donner grâce aux anges élus de ne pas chuter non plus. Donc Dieu est absolument libre dans le fait qu'il accorde ou non sa grâce. Romains 3, verset 24, 23 et 24, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Tite 3, verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Jamais on ne répétera suffisamment le fait que notre salut est absolument par grâce. Troisième caractéristique de la grâce de Dieu, c'est qu'elle est généreuse. Éphésiens 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez-vous, les Écritures elles-mêmes, le Saint-Esprit utilise des mots qui sont importants. L'infinie richesse de la grâce de Dieu. Très important de se souvenir de cela. Et aussi le fait qu'il nous dit ici que nous avons rendu la vie avec Jésus-Christ et il nous a ressuscité ensemble, le Verbe est au passé, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est à se souvenir, car Dieu, quand Dieu a ressuscité Jésus, ses élus étaient en lui et en quelque sorte, on est ressuscité avec lui et on est assis déjà avec lui dans le ciel. C'est bon de se souvenir de ça parce que ça rappelle une vérité importante. Autre caractéristique de la grâce de Dieu, c'est qu'elle est souveraine. Le mot souverain, c'est simplement un mot qui veut dire que Dieu est maître de ce qu'il fait, d'accorder ou de non accorder quoi que ce soit qu'il donne aux hommes ou à n'importe quoi de sa création. Exode 33, verset 19. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Vraiment un verset qui dit, « Dieu est le maître de ce qu'il accorde aux hommes et il est souverain, donc il n'a pas à répondre à nos questions. » Il est le maître absolu et tout ce qu'il fait est absolument juste. Donc, il faut savoir que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui dépend de Dieu lui-même. Donc, souverain. La grâce est souveraine. Autre chose, autre caractéristique, c'est qu'elle est indépendante. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que l'Éternel ne dépend pas de quoi que ce soit ou de qui que ce soit pour accorder. Elle est complètement indépendante. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le fameux Éphésiens 2:8 qu'on répète continuellement quand on est chrétien, un des premiers versets qu'on apprend, c'est celui-là, pour faire la différence entre les enseignements qu'on a reçus parfois dans l'Église catholique qui font un lien en nous disant que, dans le fond, c'est par nos œuvres qu'on est sauvés, et ce verset-là nous rappelle deux choses. Que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, de manière à ce que les hommes ne se glorifient pas. Et autre chose, ça nous dit que la foi même, le fait de croire en Jésus, en son œuvre, en sa personne, en son œuvre, c'est pas notre décision, c'est son don, parce que ça nous dit bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset qui est très cité souvent, mais je ne suis pas sûr que tant de monde que ça le comprend vraiment. Il y en a beaucoup qui le comprennent, mais que dans le fond, ils disent qu'ils comprennent, mais ils attribuent la foi à leur décision de croire. Alors, c'est la preuve qu'ils ne comprennent pas véritablement correctement. Et on a aussi dans Romains 9, versets 11 à 21, qui est un chapitre clé là, pour comprendre la souveraineté de Dieu, le fait qu'il soit souverain, le fait qu'il l'accorde à certains, qu'il refuse à d'autres. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? S'il y a un passage de l'Écriture sur lequel il y a une quantité phénoménale de commentaires contradictoires, c'est bien celui-là, parce que c'est un passage qui est clair sur la souveraineté de Dieu dans le salut, et il y en a qui vont chercher à le diluer, à le tronquer, à le changer de sens. Mais il me semble, quand on le lit à la première lecture, si on le lit d'aplomb, on fait attention à ce qu'on lit. Il me semble que c'est clair. Seigneur, c'est lui qui fait miséricorde, à qui fait miséricorde. C'est lui qui endurcit, qui est mieux. Assez spécial. C'est un passage Romains 9 à étudier, à comprendre et à appliquer, surtout dans nos vies. Autre caractéristique, c'est qu'elle est toujours manifestée à travers Christ. Nous ne pourrions jamais rien recevoir de Dieu si ce n'est à travers la personne de Christ. Pas pour rien, quand on prie, le Seigneur nous demande de toujours prier par Jésus-Christ. Quand on prie, on dit qu'on prie, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, que je te demande ces choses. Alors, on prie en Jésus-Christ, et tout ce qu'on reçoit, c'est toujours en Jésus-Christ. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Aussi, autre caractéristique de la grâce de Dieu, c'est qu'elle a de multiples facettes. Donc, si on commencerait à vouloir étudier la grâce de Dieu, je vous donne une petite leçon ce matin qui va durer à peu près 45 minutes sur la grâce de Dieu. Mais si on voudrait tout expliquer ce qui concerne la grâce de Dieu théologiquement, on pourrait écrire des bibliothèques complètes. Elle comprend de multiples facettes. Alors, c'est comme un beau diamant que vous regardez, si vous en prenez un gros, là, vous le tournez sur toutes les barres, il y a de multiples facettes qui reflètent différents aspects. Il y a beaucoup d'aspects à la grâce de Dieu. C'est sûr que ce matin, on fait uniquement faire un survol de cet attribut de Dieu-là. On est loin d'aller en profondeur et d'expliquer tout ce qu'on pourrait expliquer sur la grâce de Dieu. Deuxième point qu'on va regarder, donc le premier qu'on a regardé, c'est les caractéristiques. Le deuxième, c'est la richesse de sa grâce. Une des choses qu'on se doit de comprendre, c'est que la grâce de Dieu se manifeste envers tous les hommes, dans un certain sens. Ce qu'on appelle, en anglais, ils disent « common grace », ou on pourrait traduire par « la grâce commune ». Donc, l'Éternel nous dit dans les Saintes Écritures qu'il accorde sa grâce, non pas sa grâce à salut, mais la grâce sur certaines choses que les hommes vivent sur la terre, Dieu est gracieux envers toute sa création, toutes ses créatures. Donc, le Seigneur déverse sur les hommes une multitude de bénédictions temporelles. Donc, temporelles, ça veut dire qu'il s'exerce sur la terre et dans le temps. Il est le souteneur et le préservateur de la vie. Quand on regarde les hommes marcher, même s'ils sont des ennemis de Dieu, même s'ils sont en guerre contre lui, qui ne veulent rien savoir de Dieu pour venir diriger leur vie, l'Éternel, dans sa bonté et dans sa miséricorde, continue de soutenir leur vie. Si Dieu arrêtait un seul instant de penser à l'humanité ou de vouloir la soutenir, tout s'écroulerait dans le néant. Alors, c'est déjà une grâce que Dieu continue de soutenir et de donner la vie à ceux qui sont ses ennemis. Alors, c'est là qu'on voit un aspect de la bonté de Dieu. Si nous, on avait des ennemis, puis on avait le pouvoir de leur enlever la vie, pas sûr qu'on les enlèvera pas. Mais là, on voit la différence qu'il y a entre nous et Dieu, c'est que Dieu est bon, est capable de manifester de la grâce même envers ceux qui ne méritent absolument rien que le contraire. Ils mériteraient uniquement la condamnation. Romains 2, verset 4. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les font, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, Romains nous apprend que Dieu, par toutes sortes de moyens, cherche à pousser les hommes à la repentance. il y aurait une multitude de raisons pour qu'il se repente, mais on sait par les Écritures que les hommes n'ont pas le pouvoir de se repentir par eux-mêmes. Il faut qu'ils obtiennent la grâce de Dieu. 1 Timothée 4:10, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ça, c'est un verset qui est utilisé très abondamment par les Arméniens parce que ils nous disent, garde, le verset dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes. Mais il faut lire ce qu'il dit après. De tous les hommes, principalement des croyants. Le mot soter, le mot grec pour sauveur, peut avoir deux significations dans les Écritures. Il peut y avoir la signification de sauver à salut, et il peut aussi avoir la signification de préservateur de la vie. Ce qu'il est en train de dire dans le verset 1 Timothée 4:10, c'est que Dieu est le préservateur de la vie des hommes, croyants et incroyants. Alors, quand on prend des versets comme ça, qu'on les cite hors contexte, qu'on n'explique pas, il faut toujours aller voir les différents sens qu'un mot peut avoir. On va revenir là-dessus quand on va étudier les doctrines de la grâce en profondeur, dans toutes ses facettes. On va voir les différents versets qui sont utilisés par les Arméniens pour essayer de prouver, entre guillemets, que le salut est accessible à tous les hommes, alors que le calvinisme enseigne clairement que c'est la grâce souveraine de Dieu qui accorde la grâce aux hommes. Et on va voir comment les versets sont utilisés, et on va voir aussi comment on peut défendre le fait que ces versets-là ne s'harmonisent pas avec l'ensemble des autres versets qui parlent du même sujet. Les Écritures sont une perfection en soi, et tout s'harmonise. Dès qu'il y a quelque chose qui rentre en contradiction, qui semble rentrer, je dis bien qu'il semble, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Mais quand il semble y avoir une contradiction, c'est parce que quelque part, les hommes ne tiennent pas compte de certains autres passages qui disent dans les Écritures. Et il y a une multitude de règles à respecter si on veut interpréter correctement les Écritures. Ça aussi, on reviendra plus tard là-dessus. Donc, la première manifestation de la richesse de la grâce de Dieu, c'est le fait qu'on appelle la grâce naturelle. Comme Jésus le dit quand il est venu sur la terre, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il nourrit les bons et les méchants. Peu importe ce qui se passe à la terre, si Dieu exercerait sa justice, il accorderait sa grâce uniquement à ceux qui ne sont pas ses ennemis. Mais il accorde sa grâce, on appelle la grâce commune. La grâce commune, il ne faut pas la confondre avec la grâce à salut. Deux choses complètement différentes. Mais c'est quand même une manifestation de la grâce de Dieu, que Dieu accorde une multitude de choses aux hommes. La bonne température, les récoltes, le changement des saisons, le fait que les hommes peuvent avoir de la nourriture, et bien d'autres choses, qu'ils peuvent avoir des enfants, et bien d'autres choses. On pourrait faire une liste énorme de tout ce que Dieu accorde aux hommes, même s'ils ne le méritent absolument pas. Autre facette de la richesse de sa grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce surnaturelle. 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Quand on regarde ce que Paul dit, Paul avait été un ennemi de Dieu, mais pas un ennemi à peu près. Il avait tué, emprisonné, maltraité des croyants. Et il dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et il dit, la grâce envers moi n'a pas été vaine, parce qu'il dit, j'ai travaillé plus que tous. C'est sûr qu'ici, il parle des apôtres. Paul était un homme très consacré, et autant il était, on va dire, maniaque, entre parenthèses, avant sa conversion, après sa conversion, son caractère n'a pas changé. Il demeurait un homme entier, et il était complètement investi dans les choses de Dieu après son salut. Il a passé son temps à... Mais il reconnaît que ce qu'il fait, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui lui a donné la grâce. Autre chose. Donc, on était rendu à la grâce surnaturelle. Dans la grâce surnaturelle, il y a différentes facettes de ce qu'on peut mentionner à cet effet-là. L'Évangile lui-même, c'est sûr que c'est une grâce. 2 Corinthiens 6, verset 1. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Je pense qu'on pourrait élaborer énormément sur ce point-là. Je pense que l'idée fondamentale est que Dieu nous dit, lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, il ne faut pas la recevoir en vain. C'est quelqu'un qui recevrait la grâce de Dieu et qui ne partagerait jamais sa foi. La grâce de Dieu se doit d'être manifestée, d'être partagée. Autre chose qui est une manifestation de la richesse de la grâce de Dieu, c'est le ministère de prédication. Dieu accorde à certains hommes le fait de devoir partager, annoncer son salut et enseigner aussi dans Éphésiens 3, verset 6 à 8. Ça dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu. Paul reconnaît que s'il est aujourd'hui un prédicateur, c'est à cause de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Donc, la prédication, c'est une grâce de Dieu. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, quand on lit les commentaires sur ce passage-là, on est un petit peu... on se dit, ouais, Paul, le moindre de tous les saints, quand on regarde comment cet homme-là est encouragé, tous les voyages qu'il a fait, il a fait de la prison, il s'est fait fouetter, il n'y a rien qu'il a pas vécu pour l'amour de Dieu. Et ici, il se dit, je suis le plus petit de tous les saints, le moindre de tous les saints. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à sa vie passée. Il se rappelle très bien qu'est-ce qu'il a fait, et pour lui, le fait d'avoir fait ces choses-là contre Dieu, il se considère comme le moindre, le plus petit de tous les saints. Aujourd'hui, presque tout le monde qui écrive sur Paul dit tout que c'est probablement un des plus grands saints. Alors, c'est la différence entre la perception que tu as de toi-même et la perception que les autres peuvent avoir de toi. Donc, Dieu permet aujourd'hui que la place de Paul soit véritablement sa place. Mais Paul, quand les Écritures nous rappellent qu'il avait donné, il avait demandé à Dieu la grâce, qu'il y avait un démon qui le souffletait, c'est sûr, probablement que le démon qui le souffletait pour le garder humble, parce qu'il avait eu des révélations de Dieu qui étaient assez grandes, c'était le fait qu'il se fasse rappeler qu'est-ce qu'il avait fait dans son passé. Et toujours se faire rappeler qu'est-ce que tu as fait dans ton passé, ça peut devenir fatigant pour à peu près. Et il avait demandé à plusieurs reprises à Dieu la grâce de lui enlever ce démon qu'il souffletait là. Et Dieu lui avait répondu, « Ma grâce te suffit. » On voulait dire, « Si je te donne cette épreuve-là, c'est pour te maintenir dans l'humilité et c'est pour te faire rappeler que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est à cause de ma grâce que tu l'as obtenu. » Aussi les bénédictions. Et là, on pourrait en faire une liste, mais là, d'une longueur inimaginable, parce que la quantité de bénédictions qu'on reçoit au cours d'une vie chrétienne, ou même avant, si on était un élu de Dieu, on a reçu une multitude de bénédictions avant même d'être sauvé, et après qu'on est sauvé, on en reçoit une quantité phénoménale. Le problème avec nous autres, c'est que même si on les reçoit, on ne les identifie pas toujours comme tels. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on ne les identifie pas comme étant une bénédiction, que ça n'en est pas une. Alors, si on se donnait la peine d'identifier toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données depuis notre salut, on aurait probablement une encyclopédie à écrire. Quand vous regardez la vie de... je ne sais plus son nom, là, Matthew Henry, au début de son livre, au début de son commentaire, il y a une cinquantaine de pages, puis il raconte un peu à sa compréhension. Lui, il a écrit 50 pages, selon moi, il aurait écrit beaucoup plus long que ça. Il fait une liste de tout ce que le Seigneur a été gracieux pour lui depuis le début de sa vie. Le fait d'être venu au monde en Angleterre. Alors qu'au 19e siècle, l'Angleterre était très sous l'influence des évangiles. Il y avait énorme, la puissance de l'évangile était beaucoup en Angleterre. Alors il reconnaît, si je ne serais pas venu au monde en Angleterre, il y aurait probablement beaucoup de choses que je suis qui n'auraient pas arrivé. Deuxième note, je suis venu au monde dans telle famille, son père était chrétien. Il fait une liste de toutes les choses que l'Éternel lui a données depuis sa naissance et il écrit 50 pages. Et ça, encore, on peut les lire encore aujourd'hui. C'est au début de son commentaire sur l'ensemble de la Bible. C'est pour dire que quand on prend conscience de tout ce que l'Éternel a pu faire pour nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, si on en ferait la liste, moi, ça me fait l'impression qu'on remplirait facilement notre vie. Facilement. Il en a tellement donné, mais comme j'ai dit tantôt, le problème, c'est que souvent, on les reçoit, mais on ne les identifie pas comme tels. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours un peu de choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu nous dit que c'est qu'il nous comble. Quand on dit que quelque chose est comblé, on est comblé parce qu'on a non seulement nos besoins, mais il nous en donne plus qu'on a besoin. Autre chose, et non la moindre, qui fait partie de la richesse de la grâce surnaturelle, c'est le Saint-Esprit. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On est habitué dans nos conversations de dire « Le Saint-Esprit habite en nous. » On dit ça souvent, souvent, souvent. Cependant, est-ce qu'on prend véritablement conscience de la grandeur du cadeau que le Seigneur nous a fait? Quand on étudie les doctrines, les attributs de Dieu, qu'on vient de voir, on est rendu à la 12e leçon, on commence à prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et l'Éternel, Dieu est en train de nous dire que le don du Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est ce Dieu d'une grandeur infinie-là, qui vient vivre à l'intérieur de nous. On le dit, hein, le Saint-Esprit vit en moi, mais je ne suis pas sûr qu'on comprend toutes les implications, toute la richesse, toute la bonté de Dieu qui est impliquée là-dedans. Si ça nous prendrait une compréhension simultanée de tous les attributs de Dieu et de leur profondeur pour comprendre le fait que Dieu nous a fait ce don-là de nous donner le Saint-Esprit pour venir vivre en nous. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, ici c'est dans le contexte, ça parle de Jésus-Christ, il, c'est Jésus, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est une grâce infinie que de recevoir le Saint-Esprit. On peut demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension de ces choses-là. Parce que souvent, on dit la chose, et c'est vrai, mais on ne comprend pas nécessairement la profondeur du cadeau que le Seigneur nous a fait. Troisième point qu'on va regarder, c'est la grâce des élus. Donc ça, c'est vraiment la grâce envers ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. La grâce des élus comprend, premièrement, l'élection. Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le Seigneur nous dit qu'il nous a créé une création spirituelle quand on devient chrétien. Le Seigneur nous dit qu'il nous a créé en Jésus-Christ, mais il ne nous a pas créé pour qu'on reste assis sur nos lauriers après. Il nous a créé pour qu'on pratique de bonnes œuvres, qu'on fasse des choses qui plaisent à Dieu. Et le Seigneur nous dit qu'il nous les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, il n'y a pas un chrétien qui vit au Seigneur que le Seigneur ne peut pas préparer avec son salut, toute une multitude d'œuvres que le Seigneur veut que ce chrétien-là exécute tout au courant de sa vie. Il a préparé les bonnes œuvres et si quelqu'un est chrétien depuis un bon nombre d'années et qu'il n'est pas capable d'identifier plusieurs bonnes œuvres dans sa vie, ben, il devrait se questionner. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Chose extrêmement importante à comprendre de nos jours, parce qu'il y a un grand mouvement aux États-Unis et un peu partout dans le monde où on prêche une sorte de salut que c'est uniquement une adhésion intellectuelle à certaines vérités bibliques. Et les gens continue à vivre comme il vivait avant, comme tel qu'il était païen, sans qu'il y ait de transformation et de sanctification dans leur vie. C'est une extrêmement grave erreur. Dieu nous dit que quand on est des véritables chrétiens, il faut qu'il y ait une transformation de nos vies, sinon ça risque que notre foi soit une foi fausse, une foi qui est vaine. La véritable foi produit toujours des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais la foi véritable produit des œuvres. Très important de comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, à un moment donné, on se dit, « Ah, je suis allé à une conférence de Billy Graham et j'ai descendu l'allée parce qu'on demandait aux gens de lever la main et de descendre pour dire « Je suis sauvé. » Et après, il retourne chez eux et continue de vivre comme il vivait avant. Il n'est pas la véritable foi biblique. C'est très important de réaliser ça. Un autre aspect de la grâce des élus, c'est l'alliance éternelle. Comprendre que de toute éternité, il y a eu une entente entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sur qui serait sauvé, par quel moyen cela s'exécuterait, par la personne de Jésus-Christ et aussi par la participation du Saint-Esprit qui va régénérer les personnes qui avaient été choisies d'avance, qui va aussi les sanctifier. Très important, il ne fait pas juste les régénérer, il les sanctifie en même temps. Parce que quand tu es régénéré, tu as la vie de Dieu en toi, tu veux changer des choses dans ta vie, tu ne veux plus déplaire au Seigneur, tu veux changer. Psaume 89, versets 2 et 3. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Isaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et j'établirai traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. L'alliance éternelle, c'est quand on comprend véritablement en détail ce que ça veut dire l'alliance de Dieu éternellement et l'exécution du salut dans le temps, quand le Seigneur vient nous chercher dans notre misère et nous régénère et nous fait croire en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ, ça s'exécute dans le temps. Et ça, la source de tout ça, se trouve dans l'alliance éternelle. Autre point qui fait partie de la grâce des élus, c'est l'adoption. Ça, on oublie souvent, dans Galates 4, versets 4 à 6, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, quand on regarde les commentaires, ce que ça veut dire « petit papa d'amour ». On pourrait traduire ça par « petit papa d'amour ». C'est que si on est capable de penser au Seigneur, puis de lui dire « petit papa d'amour », c'est parce que quelque part, le Seigneur a fait une œuvre de grâce dans nos cœurs. L'adoption, c'est que Dieu avait envoyé son jugement sur son Fils, qui était le nôtre, il l'a pris à notre place. Donc, c'était le jugement par substitution. Aussi, Jésus avait accompli parfaitement la loi à notre place. Autrement dit, les exigences de Dieu envers chacun d'entre nous pour vivre en sa présence ont été accomplies par un autre. Encore là, par substitution. Donc, Jésus, le Seigneur aurait pu arrêter cela. Il aurait pardonné nos péchés, il nous aurait donné la justice de Christ, et à ses yeux, on aurait été comme si on n'aurait jamais péché. Il n'était pas obligé de dire, mais à compter du moment que je vous ai justifié, que je vous ai pardonné vos péchés, et que je vous ai accordé la justification en Christ, il n'était pas obligé de dire, mais à compter du moment que c'est fait, je vous considère comme mes propres enfants. Un père est aimant si on est vivant. Ça peut arriver. Des fois, les exemples qu'on donne vont souvent être des exemples boiteux parce que si on dit aimant comme un père, si on a eu un père qui nous a véritablement aimés, ça résonne une cloche, ça fait sonner une cloche en nous. Mais si on a eu un père qui nous a abandonnés ou maltraités, c'est. Mais un père aimant. Ce serait un père qui serait toujours attentif à tes besoins, qui t'aimerait, qui te protégerait, qui te nourrirait, qui t'instruirait, qui te cajolerait, qui te consolerait, et bien d'autres choses encore. Et ça, l'amour humain, on aime, qui d'entre nous n'aurait pas aimé avoir un père très aimant? Certaines personnes ont été privilégiées, ont eu dans la vie un père très aimant. Mais quand on dit qu'on devient un enfant de Dieu, notre père, là, il n'est pas aimant à peu près. Là. Toutes ses attributs se manifestent en lui pour nous, et c'est quelque chose d'extraordinaire. On est devenu ses enfants, il nous considère comme ses enfants. Aussi, la rédemption en Jésus-Christ, aussi, on va revenir sur toutes ces notions-là. La rédemption en Jésus-Christ, Job 33, verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Hébreux 2, 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Donc ici, c'est vraiment le fait que le Seigneur a subi grâce pour toute la rédemption. On va revenir là-dessus beaucoup plus en détail quand on va venir sur la doctrine de Jésus-Christ, mais en tout cas, ça fait partie quand même de la grâce de Dieu. La justification. Comment Dieu peut-il dire de chacun d'entre nous que nous sommes des saints? Alors, avec la conception catholique qu'on avait des choses, un saint, c'est quelqu'un qui vivait très proche de Dieu, qui faisait le moins de péché possible. Dieu nous dit, être déclaré juste, ça devrait qu'on ait fait toujours au cours de nos vies tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et il n'y a personne qui a jamais fait ça. Pourquoi Dieu peut nous déclarer juste? C'est sur la base de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus était juste, et à cause du fait que nos péchés ont été payés en lui, Dieu pouvait nous transférer sa justice sur nous. Ce qu'on appelle dans les Écritures la robe de justice de Christ. Très important, la justification. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Romains 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On pourrait... je dirais que la justification, c'est peut-être une des notions les plus fondamentales à comprendre en théologie. Si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. Le pardon des péchés, maintenant, qui est donc une autre facette, Éphésiens 1, 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Colossiens 2, 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Très important aussi de réaliser que quand Dieu fait grâce, il nous a pardonné tous nos péchés. Ceux qu'on a fait dans le passé, ceux qu'on va faire aujourd'hui et tous ceux qu'on va faire dans notre vie. Très important de réaliser ça. Aussi, l'appel irrésistible, la régénération et la sanctification qui font partie de la grâce de Dieu. Dans Jacques 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Galates 1, 15, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. 2 Timothée 1, 9, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et il nous a adressé une sainte vocation. Vocation, dans le texte, ça veut dire un appel. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le verset 2 Timothée 1, 9, c'est un verset... Dieu nous a aussi donné une grâce qu'on pourrait qualifier de préparante. Il nous a préparé au jour où on devait recevoir la grâce. Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il y a aussi des aspects dans notre vie qu'on pourrait qualifier de grâce prévenante. Jean 6, verset 44 à 45. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Grâce prévenante, et on pourrait en parler énormément, la grâce prévenante, c'est Dieu peut permettre dans nos vies de prévenir certains péchés que nous pourrions commettre. Il a le pouvoir de restreindre certains péchés qui pourraient s'accomplir dans nos vies. On se doit de prier Dieu pour qu'il l'exerce le plus possible envers chacun de nous. Et la grâce opérante, qu'on pourrait qualifier, Philippiens 2,13, car Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Intéressant de noter ça, que Dieu est capable de produire en nous le vouloir et le faire. Dans quoi que ce soit qu'on veut établir dans nos vies qui est de nature spirituelle, si on sent qu'on a de la misère à l'établir dans nos vies, on a juste à aller au trône de la grâce et de demander à Dieu à la fois le vouloir et le faire. Parce qu'il dit ici que c'est lui qui l'accorde et il l'accorde selon son bon plaisir. La grâce coopérante, Cantique 1, verset 4, « Entraîne-moi après toi, nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. » La grâce subséquente, Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La grâce persévérante, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier point, la grâce, la vie éternelle, qui n'est certainement pas la plus petite, on pourrait s'éterniser à donner des commentaires sur ça. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelles sont les applications qu'on peut tirer de la leçon d'aujourd'hui? Première, la richesse de la grâce de Dieu est immense, profonde et insondable. Glorifions le Seigneur de nous l'avoir accordé. Deuxième application, prions le Seigneur de nous en donner une juste compréhension dans toutes ses dimensions, une juste appréciation dans toute sa valeur et toute sa beauté, une juste gratitude par une vie sainte, d'obéissance et d'amour, que notre Seigneur soit glorifié éternellement. Amen.